De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, aujourd'hui dans Cinérama, nous avons vu des films en salle depuis le 10 octobre, essentiellement, on va dire. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Alors de quoi on parle?
Alors moi, je vais vous parler du nouveau film de Michel Oslo, Dilili, et nous aurons également la chance de l'avoir au micro de Cinérama pour une interview. Et puis, je vais également vous parler du très attendu A Star Is Born, le film avec Lady Gaga et de Bradley Cooper.
Et puis toi, Manu, c'est le bien et le pas bien?
Le dernier Marvel, Venom, et puis je vous parlerai de Girl.
Et quant à moi, je vous parlerai du premier film de Jean-Philippe Go, Tadzeka, et ce sera l'occasion eh bien, d'entendre le comédien de ce film. Et puis, je vous parlerai du dernier film de Michel Blanc, et on aura l'occasion de jouer un blind test spécial film d'animation. Tout ça parce qu'on est très content eh bien, d'écouter Michel Oslo dans notre émission qui débute.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
T'en écris, toi, des chansons?
Je chante pas mes propres chansons.
Pourquoi?
Bah, parce que je le sens pas.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque?
À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique.
Moi, je te trouve très belle.
Alors, je vous rassure, hein, A Star Is Born vaut quand même beaucoup mieux que sa bande-annonce. Alors, Ali est une jeune chanteuse au physique un peu ingrat qui n'arrive pas à percer malgré sa voix incroyable et ses talents de compositrice. Jackson Maine est un chanteur de country célèbre, très porté sur la bouteille et les médocs, qui s'ennuie et se détruit jusqu'au jour où il voit Ali performer dans un bar. Il s'éprend d'elle et de son talent et la pousse à monter sur scène. Une étoile est née et en même temps que la carrière de Jackson Maine, elle, décline. Alors j'ai été voir Star Is Born un peu honteuse un dimanche après-midi. Il s'avère que c'est bien un film du dimanche après-midi, mais alors vraiment en version réussie. Attention, hein, c'est pas le dernier Michael Haneke, mais pour un film sans velléité artistique ni thématique brûlante, eh bien on a évité le désastre. On passe un bon moment sans avoir pour autant l'impression d'être pris pour des décérébrés. Tout donnait lieu à penser qu'une grosse daube était née entre Bradley Cooper qui s'improvise metteur en scène, Lady Gaga qui joue pour la première fois au cinéma un rôle semi-autobiographique qui plus est, la BO Country et le fait que le film soit le troisième remake du film initial de 1937. Et bien pour ce qui est de la réalisation, Bradley Cooper s'est entouré d'un excellent chef-op et a balayé tout ce qui aurait pu donner au film un aspect aseptisé ou trop lisse. L'image est granuleuse à souhait, les plans joliment artis et le montage sait prendre son temps quand d'autres l'auraient utilisé pour jouer les cache-misères d'un rythme non assumé. Côté scénario, je n'ai pas vu les précédentes versions donc c'est un peu compliqué pour moi de comparer, mais il me semble que ce remake évite les facilités, les figures imposées, bien plus que cette histoire universelle et intemporelle de Pygmalion qui va soigner ses propres démons grâce à l'amour, le film propose une histoire d'amour peu banale qui contourne soigneusement tous les poncifs. Des deux comédiens exhalent un charme fou et leurs personnages sont véritablement incandescents. On croit à cette histoire d'amour, elle en devient même extrêmement touchante. Le film refuse les scènes tire-larmes avec obstination, pardon, pour ne garder qu'une émotion sincère. Bon, mis à part la fin. Le sujet ici, ce n'est pas vraiment l'art ou le succès, c'est surtout ce triangle amoureux entre les deux protagonistes et l'alcoolisme. Et en ce sens, les situations et les dialogues sonnent très justes à milieu de la mièvrerie qu'on aurait pu redouter. Alors, beaucoup d'actrices ont interprété ce rôle. Il y a eu Janet Gaynor en 1937, il y a eu Judy Garland en 1954 et Barbara Streisand en 1976. Pour cette nouvelle version, c'était Beyoncé qui devait interpréter le rôle principal. Et alors, heureusement, le rôle a été finalement attribué à Lady Lady Gaga qui déploie de vrais talents d'actrice et qui surtout met à profit son physique peu banal. C'est clairement la révélation du film. Même si, bien, du coup, on doit un peu supporter une bande-son entre balade pop et country, un peu difficile, assez proche de la soupe quand même, oui, faut le dire. Ouais. Mais hormis ça, le film vaut vraiment le coup d'œil.
Eh bien, merci Marine, on passe du drame musical...
Au drame tout court.
Au drame tout court.
drame cinématographique.
Le spin-off de Superman.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Alors annoncé comme étant un accident industriel, une catastrophe intégrale, Venom démarre pourtant plutôt bien, avec son ambiance post-alien plutôt sombre et inquiétante. Alors les extraterrestres l'apprennent le joli petit nom de symbiote. Alors un jargon scientifique, j'y connais rien, alors je ne peux pas savoir si c'est une invention ou si c'est réel. Et peuvent donc se balader de corps en corps, comme jadis dans une excellente série B qui s'appelait Eden, à la différence que l'humain reste conscient, il s'agit donc plutôt d'une cohabitation. Alors Tom Hardy endosse le rôle d'Eddie Brock, un journaliste qui mène une enquête sur le dirigeant d'une société nommée Life Foundation. Cette dernière travaille sur des matériaux extraterrestres en menant des expériences sur des humains dans le but de créer une espèce hybride plus forte. Alors, entre parenthèses, Carton Drake, donc le méchant, hein, prétendument super intelligent, fait ses expériences sur des humains physiquement très faibles, donc des junkies, des SDF, des cancéreux, ce qui paraît un peu débile, car dès lors qu'un gars costaud comme Eddie Brock se retrouve infecté par erreur, l'expérience fonctionne. Ils auraient pu prendre des gens costauds au moins en prison. Enfin bon, alors la symbiote prend le contrôle de son corps et de son esprit et devient donc Venom, créature à la force et au pouvoir surpuissant. Alors, jusqu'à la mutation du journaliste, hein, cette production Marvel se tient. Les auteurs, hein, bon, un bien grand mot, hein, décrivent un San Francisco peuplé de laissés pour compte, d'une population à l'abandon, filmé essentiellement de nuit dans une très belle lumière. Alors dans ce cadre, Thomas Hardy, en journaliste déchu et grande gueule, s'avère crédible et on s'attache rapidement à ce personnage qui tente de retrouver sa dignité. Alors ce qui n'est pas le cas de son ex-petite copine incarnée par une Michelle Williams totalement transparente. Et puis, bon, catastrophe, hein, le ton assez noir du début laisse place à un grand festival de n'importe quoi, au point où l'on se demande si de nombreuses coupes n'ont pas été effectuées. Parce que la durée est relativement courte, hein, 1h35, 1h40 à peine, laisse à penser. Bon, je ne vais pas râler parce que si ça avait duré 3 heures, ça aurait été absolument abominable. Alors, les ambitions initiales partent en fumée et Venom devient alors un spectacle édifiant, versant dans l'humour parodique le plus lourdingue la mièvrerie totale. Le scénario se permet des pirouettes insensées, alors à commencer par le changement de comportement brutal de Venom qui passe en 5 minutes de l'extraterrestre belliqueux à la brave bébête sauvant la planète parce qu'il trouve que son occupant est sympa. C'est tout. Enfin, la réalisation anodine, parfois efficace lors des scènes d'action interchangeables et aussi les effets spéciaux plutôt réussis pour le coup, ne sauve pas du tout le film du naufrage. Hein. Robin Fletcher, hein, le réalisateur d'ailleurs d'un sympathique Bienvenue à Zombieland, s'en met juste présent pour remplir un contrat. Mission réussie dans un sens, car aussi nul soit-il, le film a quand même cartonné aux États-Unis. Hein. Je crois qu'il a rapporté en un week-end 80 millions de dollars. Mmh. Que dire de plus, pas grand-chose.
C'est pas la première fois qu'un film décevant peut cartonner aux États-Unis et fera peut-être la même chose d'ailleurs en Europe.
Alors espérons qu'on risque d'avoir une suite. C'était l'adversaire de Spider-Man dans le 3 notamment.
En tout cas, comment gâcher le talent de Tom Hardy. Allez, de talent, il sera question cette fois-ci avec Michel Oslo.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Oui, on enchaîne donc avec Dilili, le nouveau film de Michel Oslo. Dilili est une petite fille kanak qui arrive à Paris pour la première fois au début du XXe siècle. En plus de devoir subir le racisme à cause de son métissage, elle va devoir combattre une mystérieuse secte surnommée les Malmaîtres qui enlèvent les petites filles pour les réduire à l'état de meubles, au sens propre du terme, afin de s'opposer à leur éducation, puisque cette époque a vu s'ouvrir la première université pour femmes. Aidée d'un jeune triporteur, Dilili décide de mener l'enquête, une enquête au cours de laquelle elle va rencontrer de nombreux artistes, puisqu'à cette époque se côtoient les peintres impressionnistes Sarah Bernhardt, Marie Curie et de multiples inventeurs. Dilili, le nouveau film de Michel Oslo, est une parfaite introduction au féminisme pour les petites filles, même si les adultes prendront également un grand plaisir à découvrir ce film. La volonté que l'on retrouve dans toutes les œuvres de Michel Oslo de s'élever contre l'obscurantisme et toutes les formes d'intolérance se double en plus ici d'un cours d'histoire très ludique, en rappelant les très nombreuses figures qui se sont côtoyées à cette époque faste. Alors l'animation est enchanteresse, hein, c'est un mélange de photographie Paris et d'animation, mêlée à une animation extrêmement douce, colorée, à milieu de la 3D habituellement utilisée dans les films pour enfants, enfin du moins dans les films actuels. C'est une véritable prouesse technique qui permet de retrouver le style visuel unique de Michel Oslo, tout en s'accompagnant d'un petit cours d'un véritable petit cours d'histoire et d'un beau message de tolérance. Alors c'est vraiment un film à voir, les enfants et les adultes y trouveront un plaisir égal. Attention toutefois, le débit de parole des personnages peut surprendre. Nous sommes dans une ère où les dessins animés pour enfants optent pour une surenchère sonore. Et ici, eh bien, on laisse du temps pour les mots, pour le silence même parfois. Et le rythme du film est donc assez calme. Et une fois passé un petit temps d'adaptation, bah, vous allez voir, ça fait du bien. En parlant de débit de parole justement, on va passer de mon débit très rapide à la voix très calme et très posée de Michel Oslo, qui nous parle de Dilili au micro de Cinérama.
C'est les salauds qui font du mal aux femmes et aux filles. C'est ça le départ.
Je m'appelle Dilili.
Une princesse qui vient de l'autre bout de la terre.
Le meurtre ordinaire des femmes, quotidiennement, le chiffre excède de beaucoup le chiffre des morts par guerre. Et les guerres, c'est un phénomène négligeable par rapport à ce que les hommes font aux femmes.
En avant vers Paris.
Ma première journée dans C'est extraordinaire! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur!
Une autre fillette enlevée! Les malmaîtres ont encore frappé!
Donc je me disais, c'est, on parle de ce sujet, on commence à l'aborder, et on dit aux petites filles, méfiez-vous, et ne vous laissez pas faire.
Nous percerons le mystère des malmaîtres.
1900 est très intéressant pour ça. Toutes les lois sont contre les femmes, mais des femmes y arrivent. Et aidé par des hommes. C'est une belle époque à plus d'un titre.
Entendu. Je connais beaucoup de monde.
Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes ?
Rien, hélas, si ce n'est une rumeur.
J'ai voulu faire un film qui se passe à Paris, mais indépendamment. Et c'était plutôt une idée de film en costume. Mais comme d'habitude, je me suis renseigné sur l'époque que j'avais choisi. Donc j'avais choisi 1900 parce que c'est le dernier moment où les femmes portent des robes jusqu'à terre et c'est comme ça que vous faites rêver. Et je me suis renseigné et puis j'étais ahuri. On n'a jamais vu tant de talents réunis. Et belle époque, ça fait froufrou, mais derrière les froufrous, il y a un brillant d'une civilisation qui fonctionne à tous les niveaux. Dans toutes les directions.
On raconte que le Moulin Rouge est devenu un repère de malmaîtres.
Monsieur de Toulouse-Lautrec.
J'aime bien compliquer les choses et rajouter encore une richesse. Le problème des métis qui sont rejetés par les deux côtés. Et si vous lisez une histoire du métissage, il n'y a que des histoires horribles. C'est comme les femmes.
J'ai votre suspect. Regardez cette tête. Dans une demi-heure, attaque de bijouterie.
Paris joli, Paris pourri.
Oui, l'intérêt d'avoir une petite étrangère, c'est comme Voltaire avec l'ingénue, oui, qui débarque en Basse-Bretagne et qui voit tout avec un œil neuf. C'est un procédé évident et plaisant. Bon, elle voit ce qui ne va pas, mais elle voit aussi ce qui va. Elle aime bien.
Nous progressons.
Dis donc, petite, t'es douée.
Je suis toujours en train de lutter avec le concepteur sonore pour avoir du silence, et non seulement du silence, mais du vrai silence. Oui. Enlever tout. Oui. Et maintenant, il appelle un vrai silence absolu le silence Oslo. Tout le monde a peur du silence, il y a toujours un petit quelque chose derrière. Et quelquefois, il n'y a rien.
Tu es la personne la plus recherchée par les malmaîtres. Nous n'attendrons pas pour délivrer les petites prisonnières.
L'affaire est faite.
Notre mission, livrée, Dilili.
Je suis un humain, d'une part révolté par l'injustice et la bêtise, et d'autre part, intéressé par tout et transmettant automatiquement.
C'est ce qui est beau.
J'ai mes bonnes adresses, c'est pas un secret, je les donne. Et en effet, je jubile, je suis un gourmand avec toutes ces choses qui s'offrent à nous. Et il est évident que je l'aimais. C'est comme dans les mille et une nuits, tous ces bijoux, je les enlève pas, je les laisse. Je suis pas tout à fait maître d'école, même si j'ai pas honte de savoir des choses et de les transmettre.
Monsieur Eiffel !
Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les mâles maîtres.
Et nous délivrerons toutes les filles ! Oh ! Et cela ne fait que commencer.
Les enseignants m'aiment beaucoup, mais j'ai peur qu'ils expliquent trop. Mais je vais pas me plaindre. J'ai peur qu'ils expliquent trop parce qu'il faut seulement le recevoir et puis ce qui pousse doit pousser.
Mais quelle sagesse ! On était très contents d'écouter Michel Oslo, un des grands maîtres de l'animation française, qui nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial film d'animation. Ça va être très facile, évidemment. Premier extrait.
Tu marches près du sol, tu as quatre pattes. Tu peux pas te hausser jusqu'à l'amour de Dieu. Tu peux vivre que des amours vulgaires.
Vous blasphémez, ma maîtresse est vraie.
Seul Dieu est vrai.
Dieu, c'est qu'une invention qui vous rassure. Il n'y a personne pour s'occuper de vous parce que vous êtes vieux et que vos parents sont morts.
Alors, je pensais pas vous sécher.
Je rappe plus.
Alors, il est à quatre pattes, il veut se rapprocher de Dieu. Nan, nan, nan. Le chat du rabbin de Johann Sfar.
Ah ben, je l'ai pas vu alors.
C'est oui, film de 2011 qui a ramené 500 000 spectateurs en France.
C'est animation française ?
Mais, non, c'est animation non, tout court. Voilà. Et là, la preuve avec ce deuxième extrait.
Riley a l'air de faire super la tête. Mais pourquoi elle fait super la tête ?
Quelle tête tu veux qu'elle fasse ? Toutes ces îles sont hors service.
Joa saurait faire ce qu'il faut.
Mais oui, c'est ça ! Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait. Voilà.
Bonne idée, colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la joie de vivre ?
Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici, à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein !
T'as rien compris.
Qu'est-ce qu'on répond, là ?
D'accord, et ben, donc, toi, t'as qu'à le faire passer pour toi.
Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace ?
Oh si, ce serait génial.
Mais c'était quoi, ça ? C'était pas joyeux du tout !
Non, parce que la joie, je sais pas faire.
Ah ouais, mais j'avais pas remarqué.
Ah, ça a été trouvé, c'était facile.
Oui, c'était Vice Versa.
L'excellent Vice Versa qui a ramené 4 millions de spectateurs en plus que le chat du rabbin. Troisième extrait.
C'est ma première sortie et je suis un peu fatiguée.
Tu as du toupet, hein ?
Pourquoi ? Carapa, la sorcière, est-elle méchante ?
Est-ce qu'il doit y avoir une raison ?
Oui.
Bon, là, c'était extrêmement facile, encore une fois.
Parce que c'était Kirikou.
Eh oui. Et Kirikou qui a donné deux autres opus. 1 500 000 personnes, et majoritairement des enfants, l'ont vu. Quatrième extrait.
J'ai une mission pour vous. Vous devez rapporter à cette petite fille une licorne en peluche.
Hein ? Papuche ? Mais qu'elle en a papuche ? Non. Papuche. Ah ! Papuche !
Hé, en peluche.
Les mignons.
Les mignons, voilà.
Moi, moche et méchant. Et d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais c'est un blind test avec différents studios. Et là, c'était Universal Pictures qui se mettait dans la danse avec beaucoup de succès. Dernier extrait.
Ces bestioles se plaisent bien dans les vieilles maisons vides et humides. Elles se font des petits nids invisibles et transforment tout en poussière. Moi aussi, j'en voyais souvent quand j'étais petite fille. Et je suis heureuse de savoir que vous avez la chance de les voir.
Alors ce ne sont pas des fantômes ?
Non, il n'y a pas de fantômes par ici, mon brave monsieur.
Ah !
Les noirs hôtes, pour s'en débarrasser, il suffit de parler fort et de rire aux éclats. En général, ça les fait fuir.
Manu, ça a été trouvé les noirs hôtes.
C'était Totoro, voilà. Mon voisin Totoro.
Grand succès. Grand succès, mais d'abord sorti en VHS finalement, en France. Mais après, ça a été un succès au fil des ans. J'en terminerai pour dire que vous posez une question. Savez-vous quel est le film qui a battu tous les records d'entrée ?
Animation.
Le film d'animation, oui.
L'animation ? C'est pas Bambi.
C'est pas un Disney.
Si, c'est un Disney.
Bah, Le Roi Lion ?
Non, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Ah, ouais. Suivi du Livre de la Jungle, suivi des 101 Dalmatiens, suivi de Cendrillon, suivi des Aristochats. Et pour trouver le premier film non Disney, c'est Le Monde de Nemo de Pixar. Et encore, c'est une coproduction Disney. Mmh. Et voilà, il arrive tout juste dans le top 10. Voilà. Très compliqué d'éviter Disney dans tout ça. Ainsi s'achève ce blind test. Et maintenant, eh bien, on va parler du combat que mène une adolescente née garçon peut devenir une danseuse étoile.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas compliqué. Tu veux qu'on prenne pour une fille ou pour un mec ?
Fille.
Mais voilà.
Alors très bien reçu à Cannes, hein, avec une ovation amplement méritée pour toute l'équipe, Girl, un projet bien dans l'air du temps, a raflé la Caméra d'Or et le prix d'interprétation attribué donc à Victor Polster. Alors ce dernier interprète Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile. Le trouble opéré dès les premières minutes où Lara s'entraîne à la maison en faisant des étirements n'est que de courte durée. Rapidement, la nature même du personnage est dévoilée, donc on ne spoile pas vraiment, hein, l'intérêt ne résidant pas dans un suspense de pacotille. Lara est un garçon qui souhaite devenir une fille. Et ce jeune homme au corps longiligne et sec doit se soumettre à un programme assez austère. Il est aussi pris dans la tourmente d'un paradoxe existentiel, véritable déchirement quant à l'affirmation de soi. Alors d'un côté, il va se donner à fond pour sa passion, son ambition personnelle pour son accomplissement, hein, la danse. Mais comparé aux jeunes filles qui l'entourent, dont on remarque la facilité avec laquelle elles enchaînent les mouvements gracieux, par la souplesse intrinsèque de leur silhouette, Lara, bah, par la nature même, celle d'être un homme, souffre physiquement par manque de souplesse, de grâce. Alors raideur d'un corps qui tente d'aller jusqu'au bout. Les scènes d'entraînement, d'ailleurs, sont époustouflantes, éprouvantes et immersives. La caméra colle au plus près du personnage, capte son regard en détresse mais déterminé, ne le lâche pas, même dans ses gestes les plus maladroits. Alors, ces instants de pur cinéma sensitif demeurent la part la plus émouvante du film. Mais cette appétence jusqu'au vertige pour la discipline peut aussi signifier sa perte dans ce désir légitime de devenir une femme. La mise en garde par les médecins sur l'intensité de cette activité qui peut retarder le processus de transformation, Lara n'en fait qu'à sa tête, brûle des étapes, on n'est pas sérieux quand on a 15 ans, tout doit aller vite, l'envie de croquer la vie à pleines dents est plus forte que le reste. Alors elle désespère de ne pas voir pousser ses seins, mais en revanche, elle bande son sexe jusqu'à se torturer. Alors Lara se donne aussi le droit de tomber amoureux, elle rencontre un garçon qui ne se doute rien lors de séquences assez dérangeantes finalement, sans verser dans le scabreux, en restant tout le temps pudique. La partie teen movie, les relations de Lara avec ses camarades de classe, hein, toutes des filles, s'avèrent moins pertinentes. Le discours sur la différence et le regard des autres peine parfois à se démarquer d'un article sociologique grand public. Mais cette partie anecdotique n'a rien de central, le réalisateur se concentrant majoritairement à filmer son acteur Victor Polster sous toutes les coutures. L'approche formelle, hein, qui rappelle le style puissant des premiers Dardenne, et notamment Le Fils et Rosetta, crée un climat oppressant de plus en plus angoissant, au point de flirter avec le cinéma de genre. Les références de Lucas Dont sont souvent audacieuses, cette scène de douche rappelant le début de Carrie, ou de manière plus insidieuse, les moments où Lara tente de modifier son corps évoquent le cinéma de Cronenberg jusqu'à l'épilogue insoutenable. Alors, le réalisateur signe un premier film remarquablement équilibré, mélange habile de teen movie et de film social sur la quête d'identité, sans jamais sombrer dans la complaisance et la facilité. La maturité du cinéaste se retrouve aussi dans la manière d'aborder la cellule familiale, évitant tout psychodrame pénible centré sur le conflit. Le père, endossé d'ailleurs avec beaucoup de justesse par Arié Vorthalter, je ne sais pas si on prononce comme ça.
Oh, on va le prononcer comme ça.
Je ne le connais pas.
Ah, voilà. Est un homme compréhensif qui aime son enfant et qui l'accompagne dans son désir de changer de sexe. Alors, on est très loin des clichés habituels. D'ailleurs, Lucas Dont réussit beaucoup de choses par soustraction, mais c'est aussi sa limite. D'une grande clairvoyance, Girl manque en revanche d'audace, a du mal à transfigurer son sujet très contemporain pour l'emmener vers un ailleurs moins ancré dans le quotidien, à la limite de la parabole fantastique. Alors, en citant d'ailleurs Cronenberg, hein, il effleure ce penchant transgressif de décoller du réel. La joliesse d'ailleurs esthétisante de la photographie qui privilégie les teintes jaunes un peu cotonneuses sent même parfois en décalage avec l'âpreté d'une réalisation très dense. Alors, en dépit de ses défauts, hein, assez courants dans des premiers films d'auteurs contemporains, Girls ne demeure pas moins le portrait poignant d'un personnage transgenre, littéralement porté par la prestation bouleversante de son interprète principal, qui est vraiment la révélation du film.
Et qui était la révélation de ce Cannes, j'espère que vous l'avez compris. Et Girl est sur les écrans depuis le 10 octobre, tout comme Tazeka, qui est aussi un premier film, celui de Jean-Philippe Gault.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Tazeka, c'est le nom d'un village marocain dans lequel vit Elias. Élevé par sa grand-mère, le jeune homme a pu recevoir le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle. Remarqué par un chef français qui est de passage dans le restaurant dans lequel il travaille, eh bien Elias se dit qu'il pourrait tenter sa chance de l'autre côté de la Méditerranée, d'autant que peu avant, il rencontre la belle et farouche Selma, qui retourne, elle, en France. Mais une fois dans la capitale, eh bien il se heurte aux réalités de la clandestinité et des boulots qui vont avec. Entre portrait d'un rêve d'enfant et description de l'univers de l'immigration et des exilés, cette fable sociale qui résonne d'abord comme un feel-good movie, repose sur un scénario très convenu, mais parvient tout de même à s'extirper du lot des premiers films où les défauts sont plus nombreux que les qualités, surtout dans sa partie parisienne, hein, où le réalisateur Jean-Philippe Gault confronte son personnage au travail sur les chantiers au jour le jour, à la peur de la police et finalement aussi à la solidarité qui émane entre ces travailleurs de l'ombre. On écoute non pas le réalisateur, mais Madi Bellem, le personnage principal de Tazeka.
Assaisonner le carré d'agneau, le recouvrir de la pâte à sel, dorer et enfourner, terminer la sauce, retirer du four.
Est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez le plus apprécié ou ce qui vous a aidé à entrer dans le personnage ?
C'est l'idée du rêve,
C'est-à-dire un jeune Marocain qui habite dans un village un peu comme ça et qui a un rêve de devenir un grand cuisinier. Et l'idée de partir de chez soi pour réaliser un rêve, donc c'est une idée commune qui est universelle. C'est l'idée que j'ai aimée dans ce film.
Des côtes d'agneau premières, en fait.
Côtes d'agneau. Hey, tu veux faire quoi avec?
Un carré d'agneau.
Et à qui tu vas servir ça? Elias, on va pas commencer avec tes idioties.
De couscous aux œufs fraîches.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pigeon qui agit dans couscous.
Mais c'est Julien Blanc, le cuisinier qui passe à la télévision.
J'ai l'impression que Tazeka, c'est un feel-good movie au début. Enfin, c'est très très léger. Hein, toute la partie marocaine, alors on voit la cuisine et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, l'arrivée en France est très très dure. On a l'impression que c'est thèse, antithèse, synthèse et qu'après, ça s'ouvre un peu. Mais il y a quand même cette espèce de petit feel-good movie là qui dérape.
Ben ça, c'est le parti pris du réalisateur. Moi, je trouve ça très bien. On peut pas, c'est-à-dire le film serait moins intéressant si on passe à Paris et qu'il n'y a pas ce choc, ce contraste.
Ton dessert était parfait. Équilibré dans les saveurs, juste qu'il faut de croustillant. Des pommes sucrées, mais qui gardent leur acidité.
Top.
On fait quoi maintenant?
Glamour, c'est une fille presque nue qui sort de l'eau.
Il y a le petit plus ici qui est quand même une valeur ajoutée formidable. Et dans le scénario, alors c'est monté de manière extraordinaire parce qu'il y a un grand chef étoilé qui arrive dans ce petit village. Donc ça, c'est le côté extraordinaire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le feel-good movie. On se dit, il va tout se passer. Enfin, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et pourtant, c'est pas ça qui va déclencher votre départ. C'est autre chose. Racontez-nous.
On part jamais pour une seule raison. Il y a plusieurs raisons. Et ça, c'est une raison de cœur. Donc, du coup, il vit une expérience avec Selma. Ça aborde subtilement une question de la misère sexuelle au Maroc. Du coup, quand Selma, elle vient avec cette énergie de femme française et qu'elle est libre, et d'ailleurs, il y a une scène du bisou, Elias, le personnage, il n'a jamais embrassé une fille. Et du coup, cette chose-là, il fait qu'il tombe amoureux parce que là, il y a quelque chose de possible. Voilà. Et du coup, il va aller en France pour ce bisou-là.
Allez, fous-moi le camp et ne reviens plus!
Voilà, c'était Madi Bellem, le personnage principal de Tazeka, donc film de Jean-Philippe Gault, en salle depuis le 10 octobre. C'est le cas aussi de la comédie de Michel Blanc.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Ça a évolué, tes soucis?
Ah oui, en drame.
Qu'est-ce qui se passe?
On va où?
Dans le mur.
Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien?
Maman, je suis enceinte.
Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas?
Ah.
Putain.
Merde.
Ça, c'est un bon résumé de la situation.
Ça va, toi?
Je vais te peur.
On sera jamais une famille normale.
Bon, alors là, c'est carton plein.
16 ans après Embrasser qui vous voudrez, Michel Blanc reprend une bonne partie du casting pour Voyez comme on danse. Cette reprise de l'histoire après un si long laps de temps permet d'inclure aussi la jeune génération. D'ailleurs, il ne s'agit plus de l'adaptation de l'œuvre du romancier anglais Joseph Connolly, mais bien d'une création. Et pour son 5e long métrage, l'acteur des bronzés est au scénario, au dialogue et à la mise en scène. Et bonne surprise, en moins d'1h30, le réalisateur parvient à orchestrer une comédie chorale où les personnages ont le temps de prendre un peu d'épaisseur avec une large considération pour les rôles féminins. Les femmes sont face à des hommes qui fuient leurs responsabilités ou dont l'attitude est ambiguë. La palme revient à Julien, interprété par Jean-Paul Rouve, qui est envahi alors par la parano et sent comme une présence hostile derrière lui en permanence, une sorte de métaphore de la culpabilité. Cette révélation lui apparaîtra d'ailleurs lors d'une séance de psy singulière et particulièrement drôle.
Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré.
C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles.
Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises.
Bon là, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir.
Ben, fais gaffe de pas te cogner.
La parano, le mensonge, les non-dits permettent à Michel Blanc de jouer le jeu de la comédie sans retenue jusqu'à l'absurde. Carole Bouquet en impose toujours sans avoir le rôle le plus comique. Celui-ci revient à Karine Viard qui joue Véro. C'est elle en galère de boulot et contrariée par sa progéniture, la fille qui est enceinte à 17 ans et le grand garçon qui n'a toujours pas de relation amoureuse. Et bien c'est elle qui relie tous les personnages et qui imprime le rythme. On trouve aussi Charlotte Rampling en Aristo dans la bouche de laquelle on apprend que dire merci deux fois, ça fait trop middle class. Le personnage est savoureux, aux prises avec son mari, toujours interprété par Jacques Dutronc, qui a planqué de l'argent avant que la gauche ne revienne au pouvoir et qui est en garde à vue. Alors passant de l'un à l'autre des personnages, les réunissant souvent, Michel Blanc orchestre donc une comédie bien écrite avec des dialogues ciselés. On pourrait presque regretter le rythme trop haletant et sur les thèmes abordés, et puis on peut regretter une nouvelle fois que ce soit les hommes qui se vautrent dans l'adultère. Mais Michel Blanc était bien décidé à donner le rôle de victime aux femmes, ce qui lui permet de montrer comment elles se battent.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp!
La semaine prochaine, encore une interview, celle de l'équipe du jeu.
Oui, tout à fait, de Fred Cavaillé, donc une grosse interview avec au moins 5 comédiens, il me semble, donc pour le jeu. Et je parlerai également, dans un tout autre registre, de Capharnaüm, le film de Nadine Labaki.